Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles. En ce jour, les croyants ressusciteront et ils vivront éternellement dans la présence de Dieu, dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est pas toujours facile à comprendre, mais dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 16. Ensuite, Yann et notre invité Robert nous parleront de la signification de ce texte.
Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen !» Alors, l'un des vieillards prit la parole et me demanda « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais !» Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. »
Merci. Et nous souhaitons la bienvenue à Robert qui va nous aider à comprendre le sens de ces paroles. Bonjour Robert.
Bonjour Yann. Et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que Dieu veut sauver une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants issus de toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, je voudrais commencer par le verset suivant. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau.
Quelle est donc cette immense foule assemblée autour du trône de Dieu? Nous savons qu'elle sera composée de personnes issues de toutes les nations. Mais comment savoir si nous, nous en ferons réellement partie? Les versets lus expliquent que pour se fondre en elle, il faut avoir auparavant laver et blanchir ses tuniques dans le sang de l'agneau.
Il s'agit là bien sûr d'une image, mais quel en est le sens?
La dernière fois, nous avons compris que l'agneau représente Jésus-Christ. Il est le sacrifice par excellence, celui qui ôte le péché du monde. Ceux qui ont lavé leurs tuniques dans son sang témoignent avoir accepté ses bénédictions, celles qui découlent de la croix, de son sacrifice. À cause de nos fautes, tous, nous sommes pollués et salis, spirituellement et moralement. Or Dieu n'acceptera jamais en sa présence dans les lieux célestes des êtres impurs. La question se pose alors, mais comment se purifier de ses fautes? Le seul moyen de se purifier, selon la Bible, est de se tourner vers Jésus et de recevoir son pardon. L'apôtre Jean l'explique dans sa première lettre. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
La Bible emploie souvent l'image des vêtements pour décrire à la fois notre besoin et puis le salut que Dieu accorde aux hommes.
Oui, Il faut le comprendre. Le livre de l'Apocalypse reprend souvent des images déjà utilisées dans la Bible, des images que les lecteurs de l'époque comprenaient bien. La tunique blanche est l'image de la pureté et de la justice. Une personne qui en est revêtue peut rester dans la présence de Dieu sans craindre sa condamnation. Dieu la considère innocente, non coupable, car il lui a tout pardonné. Il l'a purifiée de sa pollution morale et spirituelle. Cette tunique blanche, c'est-à-dire cette purification des péchés, est le cadeau que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas l'acheter. Il ne s'obtient pas en récompense de services rendus. Ce cadeau, Jésus l'a payé pour nous, au prix de sa mort sur la croix.
Et justement, la foule rassemblée autour de l'agneau fait monter vers lui des chants de louange pour lui exprimer sa reconnaissance pour ce cadeau à la valeur inestimable, puisque cette tunique blanche représente le pardon des péchés. Le texte lu nous apprend aussi que cette foule vient de la grande détresse, ou selon d'autres traductions, de la grande tribulation. De quoi s'agit-il ?
À vrai dire, il existe plusieurs interprétations sur ces paroles. Personnellement, je pense que la grande tribulation ou la grande détresse décrit la période de temps s'écoulant entre la résurrection de Jésus et son retour. Autrement dit, ces paroles décrivent notre âge présent. Il s'étend jusqu'au jour où Jésus créera toute chose nouvelle. Chaque chrétien vit, aujourd'hui, la grande détresse. Nous vivons tous actuellement la grande tribulation.
Mais qu'est-ce que c'est que cette grande détresse ?
C'est le monde malheureux dans lequel nous vivons. Le mal y est partout présent. Il engendre épreuve sur épreuve et sème la désolation dans son sillage. De plus, la plupart des gens rejettent Jésus et ils s'acharnent contre l'Église. Le chrétien, du fait de sa foi, doit s'attendre à souffrir tout particulièrement. Il vit au cœur de ce grand conflit, opposant les puissances du mal, humaines ou spirituelles, enragées contre le Seigneur Jésus. Au moment où Jean écrit le livre de l'Apocalypse, l'Empire romain persécutait la minorité chrétienne, leur causant une profonde détresse. Cette tribulation prend des formes différentes selon le pays dans lequel nous vivons, la culture ambiante ou même les diverses circonstances de chacun et de son Église. La détresse vécue est plus intense pour certains que pour d'autres. Toutefois, tous nous sommes marqués par l'épreuve et la souffrance. Nous ne pouvons échapper à cette réalité, du moins pas pour l'instant.
En effet, mais le texte lu nous offre une espérance formidable, me semble-t-il.
Vous avez raison, Yann. La foule assemblée autour de Jésus a quitté la grande tribulation. Le jour où Jésus reviendra pour établir toute chose nouvelle, il nous en libérera. Il mettra fin à notre grande détresse. Dès que nous ressusciterons d'entre les morts pour vivre éternellement, nous ne connaîtrons plus jamais l'épreuve. La détresse, pour tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, sera à jamais bannie. Il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une espérance merveilleuse. Aujourd'hui, Dieu nous donne un petit aperçu de ce cadeau qu'il met en réserve pour nous, car il veut nous aider à persévérer, à tout endurer dans cet âge présent, marqué par la tribulation et le désespoir.
Merci, Robert.
Oui, merci pour ces encouragements. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 20 à 23. Puis Claude nous fera part de ses réflexions.
Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint. Et vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père.
Rappelons-le, les croyants à qui l'apôtre Jean écrit ont vécu des moments difficiles qui les ont profondément secoués. Des prétendus enseignants leur avaient annoncé des révélations fausses sur Jésus. Puis, ces gens avaient ensuite quitté l'Église, probablement en emmenant avec eux une partie des croyants. Ceux qui étaient restés dans l'Église étaient plongés dans le doute. Ils devaient se demander qui avait raison et s'ils avaient fait le bon choix. Alors, l'apôtre Jean écrit pour les rassurer. Il appelle ces faux enseignants des antichrists et des menteurs. Nous ne savons pas exactement ce que ces gens avaient enseigné au sujet de Jésus, mais nous pouvons deviner qu'ils niaient certaines vérités fondamentales à son sujet. L'apôtre Jean appelle antichrist tous ceux et celles qui nient que Jésus est le Christ, tous ceux et celles qui déclarent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Toute personne qui ne proclame pas ces vérités essentielles et les met en doute publiquement s'oppose à Jésus et à Dieu le Père. L'apôtre Jean voulait rassurer ses croyants. Ils étaient restés fidèles à l'enseignement de Jésus, celui qu'ils avaient reçu dès leur tout premier pas dans la foi. Ils avaient mis leur espérance en Jésus, le roi sauveur promis par les prophètes. Ils avaient suivi et adoré le Fils éternel de Dieu. Des doctrines nouvelles les avaient troublés, mais ils avaient tenu ferme et avaient fait le bon choix. Alors l'apôtre Jean veut apaiser leur cœur troublé. Il désire affermir leur foi et calmer leurs inquiétudes. Malheureusement, encore de nos jours, les églises sont troublées par des antichrists, de prétendus enseignants qui paraissent sincères et captivants, peuvent apporter des nouveautés au sujet de Jésus, des nouveautés qui séduisent, car elles semblent offrir une vie meilleure. Cependant, il faut examiner avec beaucoup de discernement ce que de telles personnes enseignent sur Jésus. Si leur enseignement n'est pas fidèle à celui des apôtres, malgré leur bonne apparence, c'est qu'elles s'opposent à Jésus. Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Ces vérités sont les fondations de la foi chrétienne. Sans elles, notre foi s'écroule. Beaucoup de gens aiment courir après les fausses doctrines, mais nous vous encourageons à ne pas les suivre. Apprenons à faire preuve de discernement, à rester fidèles aux enseignements des apôtres trouvés dans le Nouveau Testament.
Merci Claude pour cette exhortation à demeurer fidèle à l'enseignement des apôtres. Car cet enseignement est vrai et il est digne de confiance.
Chers amis auditeurs, le moment est venu de vous dire au revoir. Mais nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour continuer les deux séries d'émissions.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.
Au revoir.